RMC jusqu'à 14h, Motors, Laurent Frédéric Bollet.
13h06 sur RMC. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans Motors, le rendez-vous hebdomadaire consacré au sport mécanique. Un menu plutôt fourni aujourd'hui. D'ailleurs, j'accueille tout de suite Benoît Boutron à mes côtés. Salut Benoît.
Salut FB, salut à tous.
Oui, parce qu'aujourd'hui, tu vas nous parler MotoGP.
Exactement.
C'était ce matin très tôt. Alors, on va pas tout dire parce que ce sera en fin d'émission que tu vas intervenir. Mais on savait que Johan Zarco était en pole position en MotoGP. Fabuleux.
La deuxième pole de sa carrière dans la catégorie reine.
Bon, alors, il a
gagné. Et malheureusement, pas de victoire pour Johan Zarco. Il doit se contenter de la 8e place, pas forcément de regret pour le pilote français, mais un grand prix extraordinaire. On va développer ça dans quelques minutes, évidemment. On peut juste vous dire que la victoire est revenue à Andrea Dovizioso, juste devant Marc Marquez. Le suspense est relancé dans le championnat du monde de MotoGP.
Bon, ok Benoît, on te retrouve donc tout à l'heure dans le dernier talk où on donnera tous les résultats du Grand Prix du Japon. On parlera également du feuilleton Sébastien Loeb, Sébastien Ogier qui continue. On évoquera aussi le championnat du monde d'endurance qui faisait escale au Japon, encore à l'honneur ce matin. Nous aurons comme invité Tristan Vautier, pilote français. Il est le troisième tricolore de l'IndyCar aux États-Unis. Mais nous commençons tout de suite avec la Formule 1.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Le tour de chauffe pour commencer, c'est logique. Et c'est Jean-Luc Roy qui est avec nous en direct. Salut Jean-Luc.
Oui, bonjour LV, bonjour à tous.
Ravi de te retrouver Jean-Luc, une semaine après le Grand Prix du Japon. Oui, alors le Japon c'est fabuleux, t'as vu, il y a le Grand Prix Formule 1 un week-end et le Grand Prix suivant, t'as le Grand Prix Moto et le championnat du monde d'endurance qui fait escale sur le même pays. Au niveau concentration des étapes, des différents championnats du monde au Japon, ils sont servis. Je sais pas d'ailleurs si tu trouves ça très bien ou si tu préférerais que ce soit un peu plus ventilé.
Bah écoute, personnellement, je trouve ça pas très bien du tout pour deux raisons. La première, c'est un petit peu stupide, effectivement, d'avoir deux championnats du monde de sport mécanique le même jour. Mais on va dire que ça ne dépend pas de la même fédération, évidemment. Le Grand Prix Moto, c'est la Fédé Moto. Et le WEC, c'est la FIA. Mais avoir à une semaine d'intervalle le Grand Prix Formule 1 à Suzuka et l'épreuve WEC juste après dans des conditions dantesques, comme tu l'as dit et comme tu vas en parler, je trouve ça débile, tout simplement. Puis on sait que la météo est très mauvaise à cette période de l'année au Japon. On le sait depuis des dizaines d'années, j'allais dire. Donc je ne comprends pas pourquoi on n'aménage pas le calendrier un peu mieux. Je sais que c'est compliqué à mettre en place, c'est toujours facile de critiquer, mais là quand même, oui, non, c'est très mauvais.
Bon, voilà. Écoute, c'est un petit préambule, mais effectivement, là, il était tellement tentant que je n'ai pas résisté à te poser cette question, mais c'est vrai que ça nous laisse un petit peu dubitatif. Bon, on va dire ça comme ça. Alors, la semaine dernière, tu as commenté la 61e victoire dans la carrière de Lewis Hamilton, la 8e de la saison sur 16 courses, à l'occasion de ce Grand Prix du Japon F1 qui s'est déroulé à Suzuka. Donc, ma question pour commencer, Jean-Luc, elle est très simple. Hamilton est-il le futur champion du monde 2017 de Formule 1 ?
Logiquement, oui, bien sûr. Écoute, effectivement, vous parliez de cote il y a un instant avec Christophe et c'est avec Benji et c'est logique. Écoute, c'est le plus fort. Là, de toute manière, ce serait presque l'inverse qu'il faudrait souligner. C'est-à-dire que si le titre lui échappait suite à des circonstances, et je touche du bois en disant ça, forcément dramatique, ce serait pas normal. Parce que là, il ne peut pas être rejoint, comme tu le soulignais, effectivement, 10 pôles pardon dans l'année, 8 victoires. C'est l'homme le plus fort du championnat. Et puis il démontre, on pourrait dire ah oui mais c'est la voiture, c'est l'écurie. Non, puisque Bottas a indubitablement la même, qu'il est dans une passe très difficile, Valtteri Bottas, même si ça a été plutôt moins mal on va dire au Japon, mais que lui-même n'a pas trouvé la solution pour bien exploiter la Mercedes aussi bien que le fait Hamilton. Donc c'est l'homme le plus fort de la saison jusque là. Je sais bien qu'il reste 4 grands prix, mais il faudrait que Vettel les gagne tous les 4 et que vraiment Hamilton a une malchance insigne. Ça peut lui arriver, notamment une casse mécanique, par exemple, qui effectivement, alors c'est vrai que si Vettel gagne et que Hamilton ne termine pas, hop, t'effaces 25 points, c'est-à-dire pratiquement la moitié de l'écart. Mais bon, il faudrait des circonstances exceptionnelles. Voilà.
Bon, alors évidemment, on a posé la question à Lewis Hamilton, on n'a pas été les premiers à se soucier de cette possibilité. Et Louis Amar, donc la semaine dernière, après ce Grand Prix du Japon, a posé la question à Lewis Hamilton sur le titre plus que jamais envisageable. Voici sa réponse, je te propose de l'écouter.
Honnêtement, je n'y ai jamais trop pensé et je ne dois pas trop y penser. On se laisse vite submerger si on commence à calculer. Je dois juste continuer à faire ce que je fais et rester aussi performant qu'en ce moment sans me dire si et si. Je ne dois me concentrer que sur le présent. Il reste encore 4 courses.
Bon, écoute, c'est une réponse un peu convenue, mais on s'y attendait et elle est relativement logique de la part de Lewis Hamilton, Jean-Luc.
Bah, tu as déjà entendu un pilote répondre entre eux. Je vais poser la question. Non, là, ça me déçoit presque un peu parce qu'Hamilton, il a son franc-parler, c'est ce qu'on aime bien chez lui. Là, c'est la langue de bois typique. Là, oui, c'est l'okoumé labellisé. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Évidemment qu'il y pense, tu penses, il court après ce quatrième titre. Bah, dès le début de la saison, il y pensait. Maintenant que dans sa tête, il se dit, je prends les courses une par une, j'essaie de faire du mieux possible, c'est tout à fait normal. Et qu'il ne se livre pas à des calculs d'apothicaire, c'est normal aussi. Maintenant, il ne pense qu'à ça, évidemment.
Bon, ok, on est bien d'accord, mais c'est pour ça qu'on l'avait sélectionné. Alors, il peut donc être mathématiquement titré dès la semaine prochaine à Austin, aux États-Unis. Hein, ça, il faut bien en avoir conscience. Ça peut se faire la semaine prochaine, Jean-Luc.
Oui, bien sûr, il faudrait que Lewis l'emporte à nouveau, ce serait sa 9e victoire, et que Vettel ne fasse pas mieux que 5e. Donc, c'est effectivement, c'est simple. Après, il resterait donc 75 points à attribuer. C'est aussi simple que ça, si l'écart est de 75 points. Au nombre de victoires, de toute manière, ce serait pour Lewis. Donc, c'est possible, malheureusement, vu les malheurs de Ferrari, les problèmes de Vettel, dont j'imagine on va parler, c'est très possible.
Bon, on va effectivement évoquer, évidemment, ce grand débat qui concerne Ferrari. Je voudrais juste passer en revue avec toi un petit peu les news de la semaine.
Oui.
Pour rester dans l'actu. Et il y en a une, importante qu'on attendait. C'est vrai, Pierre Gasly, notre nouveau français de la F1, après Romain Grosjean et Esteban Ocon, qui a donc débuté ses deux derniers Grands Prix, qui a fait ses deux derniers Grands Prix, les deux premiers de sa carrière. Il y avait une question qui demeurait en suspens. Allait-il être là aux États-Unis ou allait-il se concentrer sur le championnat qu'il dispute au Japon, le Super Formula, comme on appelle ça? Eh bien, la sanction, si j'ose dire, elle est tombée. Non, Pierre Gasly ne sera pas aux États-Unis. C'est quand même une relative surprise. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, relative surprise et mauvaise nouvelle, moi j'ose le dire, pour Pierre Gasly. Ben écoute, on a pendant le week-end de Suzuka, on a soufflé le chaud, le froid. C'est-à-dire qu'on nous a dit, ah ça y est, c'est fait, y a pas de problème. Et puis on était resté à la fin du week-end japonais à Suzuka sur le fait que Honda eux-mêmes, on était sur les terres de Honda, avaient dit, finalement on comprend bien, c'est pas grave s'il ne se bat pas pour essayer de remporter le titre en Super Formula. On rappelle qu'une épreuve se déroule en même temps qu'Austin, donc c'est la raison pour laquelle évidemment il peut pas se couper en deux. Soit il a un demi-point de retard pour le moment par rapport au leader du championnat, donc il peut essayer de décrocher ce titre, mais qui est de moindre importance. Puis surtout, Pierre il a switché entre guillemets sur le mode F1 depuis deux grands prix et il réalise des performances tout à fait, plus qu'honorables, très encourageantes. C'est pas bon de le faire revenir en arrière. Là, on brise un peu la dynamique, surtout qu'Honda avait dit on s'en occupe pas. Et puis, je ne sais pas qui a pris la décision finale, sûrement Helmut, Marco.
Oui, donc, l'éminence grise de Red Bull.
Et grise parce qu'il n'a pas loin de 75 ans maintenant, effectivement, Helmut. Mais en tout cas, la décision a été prise de ramener Pierre, je dirais, en Super Formula. Ça profite évidemment, si tu vas nous en parler aussi, je te laisse révéler l'information.
Brendan Hartley, moi j'aime bien, c'est un néo-zélandais qu'on suit beaucoup sur Motorsport TV depuis plein d'années. D'ailleurs, en 2008, il était en Formule 3 britannique. Figure-toi que cette année-là, il y avait aussi Sergio Perez et Marcus Ericsson. J'ai retrouvé mes petites archives, donc trois pilotes actuels en Formule 1. Donc tu vois, on le suit depuis longtemps. Ouais. Il est actuellement pilote d'endurance officiel chez Porsche. Il a gagné les 24 heures du Mans cette année. Il est champion du monde d'endurance il y a 2 ans. Donc, on va dire, c'est un bon client et un très très bon pilote international. Donc, tant mieux pour lui. Mais je suis pas convaincu aussi que ce soit une super nouvelle pour Pierre Gasly, ou un cador qui débarque aussi chez Toro Rosso. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors écoute, si Brendan Hartley faisait un résultat là, je serais littéralement bluffé. Qu'il tienne sa place. Oui, il n'a pas piloté de monoplace. Moi aussi, je me suis un peu renseigné depuis 2011. Tu te rends compte?
C'est vrai.
Depuis la Formula 3.5, c'est un gouffre. Ça fait 6 ans. Il a fait quelques petits essais, effectivement, pour Toro Rosso et pour Mercedes, mais faut remonter à 2009 et 2012. Donc, à mon avis, il va avoir tout à apprendre, avec la vitesse grand V. En plus, il a roulé en IMSA, comme tu le sais très bien, la semaine dernière. Là, il roulait chez Porsche ce week-end, effectivement, sous l'appui. Bon, il n'a pas gagné.
Mais je veux dire, c'est
un excellent pilote, tu l'as dit. Maintenant, la Formule 1, aujourd'hui, c'est totalement différent, surtout depuis l'introduction de ces foutus moteurs, je le dis encore, depuis 2014, où la procédure. T'as vu qu'on se pose de plus en plus de questions, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais là aussi, au plus haut lieu, en un mot, alors cette fois, j'en parle.
Mais tu en parleras, oui.
Tout le monde se pose des questions là-dessus, y compris Ross Brawn, en disant que c'est une catastrophe. Christian Horner plaide le retour au V12, carrément. Enfin des vrais moteurs. Ouais. Bon, je ne vais pas détourner de sujet par rapport à la question que tu m'as posée. C'est sûr que c'est une belle chance pour Hartley. Maintenant, à 27 ans, débarqué en Formule 1, non, c'est un remplacement. Voilà, il fait une pise.
Alors je suis un peu trop pessimiste ou je suis trop inquiet. Toi, c'est ce que tu penses là par rapport à la place de Pierre Gasly. Donc tu pars du principe que, d'accord, ok, on va couper l'élan et il ne sera pas Austin, mais sa place est assurée. C'est ce que tu penses alors?
Ah, totalement. Écoute, de mon point de vue, quand on a 21 ans, il est sur une trajectoire totalement ascendante. Qu'il décroche d'ailleurs le titre ou pas en Super Formula, bon, on lui permet de défendre. Ce serait formidable qu'il le décroche, j'allais dire. Mais vu les performances extrêmement encourageante et mieux que ça qu'il a réalisé lors des deux derniers Grands Prix. Puis je te dis, entre un pilote en devenir à la trajectoire limpide en monoplace de 21 ans et quelqu'un comme Brendan Hartley, même néo-zélandais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un néo-zélandais en Formule 1, qu'on fait revenir là, non, j'y crois pas trop personnellement.
Bon, ok Jean-Luc. Bon ben voilà pour la nouvelle importante effectivement de cette semaine. Pierre Gasly absent à Austin, remplacé par le néo-zélandais Brendan Hartley, et on aura le temps tout au long du week-end prochain de faire connaissance avec lui. Je te propose maintenant effectivement la deuxième partie de notre entretien, Jean-Luc.
RMC Motors dans le rétro.
Alors, dans le rétro, bah, c'est pour vraiment insister et se repencher sur quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. Il y avait la victoire d'Hamilton d'un côté, bien sûr, mais il y a eu encore la défaite de Ferrari. Avec une image encore incroyable, bah, de voir Sébastien Vettel obligé de renoncer dès le troisième, quatrième tour, avec un problème mécanique qui semblait vraiment anodin quelque part, mais qui a engendré d'énormes conséquences, encore un abandon. C'est une spirale un petit peu infernale en ce moment pour Ferrari, depuis la rentrée en tout cas, depuis la fin de l'été, Jean-Luc. Comment tu analyses ça? Est-ce que c'est un scandale, Ferrari? Est-ce que c'est un problème seulement et il n'y a pas lieu d'en faire trop non plus de notre côté? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça peut arriver à tout le monde? Comment tu analyses ça finalement?
Écoute, c'est d'abord triste pour le championnat, franchement, parce que à chaque fois on le dit, on est obligé de préciser, bien sûr qu'on adore la Scuderia Ferrari, mais c'est surtout pour l'intérêt du championnat, avoir deux pilotes de ce calibre, un déjà quadruple champion du monde, faut-il le rappeler, deux rangs de surcroît, Vettel, et puis un peut-être bientôt quadruple, bon, ce sont deux monstres de la catégorie, donc c'est génial de les voir s'affronter. Et là, on n'a pas une lutte inter-écurie, donc c'est vraiment, vraiment bien d'avoir Hamilton face à Vettel. Alors, on y croyait jusqu'à la reprise du championnat, après le break, après effectivement la dernière victoire et la dernière belle performance de Vettel. Et puis là, on voit bien que depuis la rentrée, depuis Spa, ça va beaucoup, beaucoup moins bien, même si c'était pas honteux en Belgique. Mais ça l'était un petit peu à Spa, il faut être clair. On attendait les Ferrari vraiment beaucoup mieux. Et puis après, bon, problème technique, problème humain. Alors, on en vient, et tu le disais, à ce dernier Grand Prix, où là, il se retrouve sur la première ligne de la grille de départ. On se dit, génial, on va avoir un bel affrontement entre les deux prétendants au titre. Hamilton-Mercedes face à Vettel-Ferrari, c'est génial. Et puis, on comprend, après quelques virages et quelques centaines de mètres, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Apparemment, c'était une bougie.
N'était qu'une bougie, c'est ça.
C'est incroyable, à bord de la Ferrari. Alors, écoute, est-ce que la procédure, là aussi, on se perd en conjecture, c'est le cas de le dire. On a Sergio Marchion qui hurle, effectivement, en disant « c'est un scandale, on va tout changer ». On a Vettel à l'intérieur qui prend presque le contre-pied en disant « non, non, moi je protège l'équipe, tout va bien, chacun bosse, on n'a pas de chance, c'est une mauvaise passe, on va en sortir ». Là, Vettel, il se pose d'ailleurs, quelque part, en patron de cette équipe. C'est vrai, t'as vu, par parenthèse, il a dit « mon meilleur coéquipier, c'est Raikkonen ». Ben, évidemment. Et il lui fait pas beaucoup d'ombre. Et puis, on a bien posé les situations de chacun. C'est bien Vettel number one et Raikkonen reconduit coup par coup numéro deux pour le servir. Bon. Donc, est-ce que c'est un scandale? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment de la malchance. Maintenant, tu sais, une écurie de Formule 1, c'est 5 à 700, 800 personnes. Donc, on peut effectivement modifier les procédures, ça, je pense qu'ils en ont besoin. Et puis, je te dis, essayer d'éviter les erreurs. Tu sais, c'est une saison de Formule 1, c'est tellement long maintenant avec 20 Grands Prix. C'est un peu comme l'endurance. Tu vois, tu en parlais il y a un instant, ou le Dakar, faut commettre aucune erreur. Voilà. Ouais, en Ferrari, on commet.
Bon, bah, en tout cas, c'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur de voir cette débâcle, disons-le, quand même, là, objectivement, de Ferrari. Je voudrais juste te faire entendre un dernier petit son au micro de Louis Amar la semaine dernière à Suzuka. Pour un homme dont on risque, à mon avis, de parler quand même en cette fin de saison, c'est Max Verstappen. On l'écoute tout de suite.
Je crois que notre rythme était vraiment bon. Donc si j'avais été devant Hamilton dès le début, j'aurais pu espérer gagner, mais là c'était compliqué. J'étais celui qui devait attaquer et il est plus difficile de dépasser sur cette piste qu'en Malaisie. Encore une fois, on avait une super vitesse avec les pneus soft, ça m'a plu, mais j'ai vite compris que j'aurais du mal à doubler, même si c'était bien de pouvoir lui mettre un peu la pression.
Voilà, Max Verstappen donc au micro d'RMC, bah ça ne se refuse pas. Écoute, si on a décidé de te parler de Max Verstappen, Jean-Luc, c'est parce que victoire en Malaisie, deuxième la semaine dernière à Suzuka.
Eh oui.
On a le sentiment que quand même cette fin d'année va être marquée par Verstappen qui va être le grand rival, j'ai l'impression, de Lewis Hamilton. Qu'en penses-tu?
Oui, écoute,
course
il a le
course,
matériel.
Hein, voilà, course
oui,
à...
oui, bien sûr. Mmh. Ah ben lui, il n'a rien à perdre. Hein. Il l'avait dit d'ailleurs intelligemment, et j'aime bien cette franchise aussi, lors du Grand Prix de Malaisie, il a dit « J'ai tenté cette attaque très tranchante par rapport à Hamilton, je savais bien qu'il ne défendrait pas outre mesure. » C'est malin, c'est intelligent. Et Hamilton le sait. Il sait que dès qu'il va avoir Verstappen derrière lui, si le titre est encore en jeu, pour Austin, ce sera le cas, ben Verstappen peut se permettre non pas une attaque suicidaire, et je me plais à le souligner, mais une attaque virile, mais correcte, eh bien, il sera là. Donc, effectivement, il peut venir brouiller les cartes et l'empêcher de remporter une victoire, si tant est que la monoplace le permette. Alors, tiens, on a appris une info aussi, c'est que non seulement il y a le moteur, mais il y a aussi les carburants ESSO. Alors maintenant, on rend hommage au carburant. Je croyais que le carburant était homologué en début de saison, qu'on n'avait plus trop le droit d'y toucher.
Bon, oui, peu importe.
Écoute, peu importe, on rend grâce, j'allais dire, aux partenaires techniques, tant mieux. Et au moteur Renault, je le redis une nouvelle fois. Donc oui, s'il a la monoplace pour bien figurer, et à Austin, qui est un superbe circuit, qui est vraiment un circuit qui, tu le sais, a repris quelque part des enchaînements. Tiens, c'est presque le snake qu'on a, hein, juste après le virage numéro 1. On a un enchaînement de courbes à haute vitesse, à plus de 200, 230, 250, avec des droites, gauche, droite, comme ça, c'est génial. Donc ça, on se retrouverait presque à Suzuka. En plus, c'est vallonné. Non, moi je pense que oui, Verstappen peut être le trouble fait de la fin de saison et venir s'immiscer dans l'affrontement et prendre des points non seulement à Hamilton, mais aussi à Vettel.
Mais j'en suis intimement convaincu, lequel Vettel n'a plus que 13 points d'avance sur Bottas pour la place de vice-champion. Attention, hein, parce que la débâcle Ferrari, bon, c'est par rapport à Hamilton dans un premier temps, mais c'est faudrait pas que ça se traduise non plus par peut-être un doublé Mercedes à la fin de l'année. Eh oui.
C'est clair. Alors là, je crois que Vettel, à la limite, tu vois, je vais être cru, deuxième ou troisième, il s'en moque un peu. Il y a que le titre qui est joli. Maintenant, c'est vrai que ce serait l'humiliation suprême. Si Mercedes plaçait quand même ses deux pilotes devant, surtout après le passage à vide, entre guillemets, de Bottas, qui va certainement se refaire pour les quatre derniers Grands Prix. J'en suis persuadé aussi. Bon, je pense que on a trouvé la solution. Je ne sais pas ce qui ne fonctionne pas correctement, mais il y a quelque chose, indubitablement. Là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. On l'a vu à Suzuka. Donc effectivement, oui, de doubler Mercedes, ça sera enfoncé de clous, effectivement.
Tout à fait. Bon, allez, on pourrait continuer à parler de longues minutes, Jean-Luc,
oui.
Ça c'est sûr, sur l'actualité F1. On va s'arrêter là, on va juste donner rendez-vous évidemment à tous nos auditeurs pour le week-end prochain, donc ce Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas. 21h, les horaires de la séance qualif le samedi, ça n'a pas l'air de te réjouir.
Écoute, tu sais, c'est très bien sur AMC, il y a beaucoup de sport, mais notamment du football, tu vois.
C'est ça,
à mon avis.
Il va falloir que tu partages l'antenne. Hein,
voilà.
Que tu trouves ta place.
Bon,
mais tu vas y aller, je n'en doute pas. Voilà. Allez, merci beaucoup Jean-Luc de t'être rendu disponible aujourd'hui. Et donc, rendez-vous le week-end prochain pour ce Grand Prix des États-Unis. Salut Jean-Luc.
Salut LFB.
Allez, comme promis, on va évoquer le champion du monde d'endurance. Donc, les 6 heures du Mont Fuji. C'était ce matin très tôt et on en parle dans Motors. À tout de suite.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC jusqu'à 14h Motors. Laurent-Frédéric Bollet.
Il est 13h27, on est ensemble jusqu'à 14h. Après la Formule 1, on va ouvrir notre deuxième page dans Motors aujourd'hui consacrée au championnat du monde d'endurance. C'était ce matin très tôt au Japon, les 6 heures de Fuji, la 7e manche de la saison. Une discipline donc marquée évidemment par les 24 heures du Mans, mais il y a d'autres courses tout au long de l'année et c'était donc la manche japonaise ce matin. Pour en parler avec nous, Laurent Mercier en direct. Bonjour Laurent.
Bonjour les V.
Grand spécialiste de l'endurance en France, fondateur et rédacteur en chef du site enduranceinfo.com. Merci Laurent d'être avec nous. Je ne doute pas que tu as regardé la course qui était diffusée en direct sur Motorsport TV. On en parlait tout à l'heure en préambule avec Jean-Luc, c'est vrai, venir au Japon en cette période de l'année, toi qui connais bien ce pays également, tu sais comme moi que c'est la saison soi-disant dite des typhons. Et c'est pas la première fois qu'on voit une course d'endurance troublée par la pluie, le brouillard, ça encore été le cas ce matin au Mont Fuji. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose à faire au niveau du calendrier, de l'aménagement de ces calendriers?
Y a toujours quelque chose à faire. Maintenant, on a que 52 week-ends dans l'année, donc c'est un petit peu compliqué de contenter tout le monde, surtout qu'après le championnat va à Shanghai, donc pas très très loin. Mais on sait que justement, c'est pas la première fois, puisque c'était arrivé déjà en 2013, où la course avait été encore plus courte d'ailleurs. Mais c'est monnaie courante à cette période de l'année où la pluie et le brouillard pour cette année du coup a bien causer des problèmes aux concurrents.
Bah oui, on a quand même le sentiment, Laurent, juste pour finir sur ce débat vraiment introductif, que ça gâche un peu la fête. Tu es d'accord?
Oui, oui, oui.
Oui. Hein, ouais. C'est ça le problème, quoi. Je suis le premier d'accord que ça peut pimenter, hein, les mauvaises conditions.
Oui, exactement, exactement. Ouais. Et du coup, là, maintenant, rien n'est joué. Il reste deux meetings. Et du coup, Toyota peut encore espérer rafler la mise, même si avec 39 points de retard, ça va être compliqué. Mais il reste 52 points à distribuer. Donc, rien n'est joué.
Mais oui, alors, c'est vrai. Donc, le grand duel, hein, en endurance, on le sait, c'est Porsche face à Toyota. Toyota, donc, ce matin, a gagné. Et c'est vrai qu'on restait sur 4 victoires consécutives de Porsche, hein, qui avait comme une série qui avait commencé au Mans, qui s'était poursuivie au Nürburgring, au Mexique, aux États-Unis. Donc là, Toyota a redressé la barre. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ce matin, quels ont été un peu les faits de course?
Les faits de course, déjà, la plus grosse difficulté, je pense, pour les pilotes, ça a été de maintenir les pneus en température. La température était quand même assez froide. Il y a eu beaucoup de neutralisation, beaucoup de relance. Il a fallu que les pilotes se mettent dans le rythme. Et une fois qu'ils étaient dans le rythme, malgré les conditions, on a ressorti le drapeau jaune et après à deux reprises le drapeau rouge. Donc ça a été un petit peu compliqué. Je sais que chez Porsche, notamment la numéro 2, c'était un peu compliqué pour justement mettre les pneus en température. Mm-hmm. Cette voiture qui mène le championnat, elle a un petit peu perdu pied avec la tête et avec les points de la quatrième place. Du coup, c'est quelques points qui s'envolent dans l'optique du championnat.
On est d'accord que les pilotes de la Porsche numéro 2 pouvaient devenir champion du monde aujourd'hui.
Exactement, ils pouvaient devenir champion du monde, mais du coup, bon, et après, il fallait qu'eux gagnent et que chez Toyota, on soit un petit peu loin, mais du coup, là, maintenant, c'est plutôt pas mal. Ça donne encore du piment à deux courses de la fin du championnat, donc personne s'en plaindra.
Bon, alors, non seulement c'est le cas, est-ce que tu me permets une petite note de cynisme également, Laurent, mais plutôt innocente quand même, et voilà, je te la livre. Est-ce que c'est pas un peu quand même écrit à chaque fois que Toyota doit gagner chez eux au Japon sur le circuit du Mont Fuji?
ça fait cinq victoires sur six à Fuji, ouais, pour Toyota sur ces terres. Maintenant là, bon, c'est aussi les conditions qui ont fait que Toyota a été devant. Je sais qu'avant de venir, Toyota a longtemps hésité entre les deux packages aéro. Et du coup, c'est Toyota qui a réussi à sortir son épingle du jeu. Et ça fait 5 victoires en 6 ans pour Toyota.
Bah donc, tu penses un peu comme moi ou on est trop cynique justement?
Ouais. Moi, je vais pas tirer de conclusion. Donc là, les conditions ont fait que. Alors peut-être qu'à la régulière, si on avait une piste sèche, on sait que Porsche a l'avantage, hein, comme tu l'as dit, depuis les 24 heures du Mans. Maintenant, tu sais comme moi qu'une course, elle se gagne qu'au drapeau à damier franchi. Hein.
Oui, tout à fait. En tout cas, donc bravo à Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Anthony Davidson, qui sont les vainqueurs officiels donc de ces 6 heures de Fuji. Et c'est vrai, tu l'as déjà dit, qu'au niveau du championnat, ça remet pas tout en question, mais c'est un petit élan brisé, hein, du côté de chez Porsche, qui, tu crois, pourrait donc continuer à appliquer des consignes d'équipe. Hein, là aussi, je me permets te soumettre une petite réflexion un peu désabusée, hein, ces dernières courses. Moi, j'avais pas vraiment apprécié ce spectacle. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Non, c'est clair. On est là pour faire du sport. Les pilotes sont là pour faire du sport. Maintenant, il est vrai que les pilotes sont professionnels, ont un contrat. Et si on leur demande, évidemment, de laisser passer leur compagnon d'écurie, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'autre choix que de le faire. Je trouve ça un petit peu dommage sur le plan sportif, quand même. Pilotes prennent suffisamment de risques. On a vu en Formule 1, il n'y a pas encore très très longtemps, on a laissé les pilotes s'exprimer, c'est des grands garçons et c'est un petit peu dommage.
On est bien d'accord. Dernière question, on va dire peut-être par rapport au contexte global de ce championnat du monde d'endurance, pas de nouvelles révélées par Toyota à l'occasion de cette manche japonaise sur leur avenir, leur future implication?
Non, on attendait des nouvelles ce week-end et du coup les infos que moi j'ai pu avoir, c'est un petit peu décalé dans le temps. Mm-hmm. Toyota attend de savoir aussi quel va être l'équilibre de performance entre les hybrides et les non-hybrides l'année prochaine. Je pense que si Toyota a un bon coup à jouer, pourquoi pas rester pour essayer enfin de mettre son nom au palmarès des 24 heures du Mans.
C'est ça. Bon, écoute, je te propose de passer en revue aussi les autres résultats de cette course de Fuji, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs catégories en endurance. Alors en LMP2, les protos de la catégorie P2, c'est vrai qu'il y a une bataille formidable, hein, depuis le début de l'année entre le Jackie Chan DC Racing, dont on parle beaucoup, mais également les forces suisses de Rébellion, Vaillante Rébellion, et les forces françaises de Signatec Alpine. Eh bien, je crois que le duo Senna-Prost, car oui, il existe bien, hein, ce duo Senna-Prost en endurance, a gagné ce matin, c'est ça?
Ouais, exactement. On a Senna-Prost et sur l'autre voiture, on a Nelson Piquet Jr. Donc,
c'est fabuleux.
Même cette voiture-là a eu un peu plus de mal, mais du coup, la victoire de Vaillante Rébellion les relance au championnat par rapport au Jackie Chan DC Racing. Maintenant, il y a plus que 10 points d'écart entre les deux. Là aussi, comme en LMP1, et on a Signatec Alpine, hein, qui est quand même assez près avec Gustavo Menezes, qui est tout seul parce qu'il y a que lui qui a fait toute la saison dans la voiture. Et lui aussi peut encore espérer garder la couronne pour le clan français.
Voilà, donc victoire suisse, Rébellion et Bruno Senna, Nicolas Prost et Julien Canal, qu'on va pas oublier également, qui est le troisième pilote. Et puis alors côté GT, où il y a un sacré plateau avec des forces officielles, hein, Ford, Ferrari, Aston Martin, Porsche notamment en GTE Pro. C'est Ferrari qui gagne sur les deux tableaux, je crois.
Ouais, c'est Ferrari qui gagne sur les deux tableaux, exactement. Et là aussi, comme en prototype, ça relance complètement le championnat, puisque c'était l'équipage de la Ford, un trio Etiquenel qui sont arrivés en tête. Et là, ils ont terminé cinquième, puisque la voiture a eu un problème. Et non, ils ont abandonné, pardon. Et du coup, ça les fait passer cinquième au championnat.
Ah oui.
Et ça relance le championnat, puisque c'est les vainqueurs du jour qui prennent la tête pour 5 points par rapport au pilote Porsche, Makowiecki, Richard Litt.
Bon, écoute, ok, je crois qu'on a tous les... Alors, j'avais quand même deux petites questions supplémentaires à te poser. On est entre spécialistes, mais quand même, là, j'en profite, parce que c'est pas tous les jours qu'on t'a au téléphone. La catégorie P2, tu as vu qu'il allait y avoir un upgrade, comme on dit, pour les trois des quatre châssis qui sont moins performants que Oreca, qui a fabriqué les meilleurs châssis. Est-ce que ça te semble légitime, ou est-ce que effectivement ça introduit une philosophie qui était peut-être pas forcément prévue au départ?
Alors, le joker... qu'on appelle ça le joker. Les constructeurs ont droit à une évolution durant la période d'homologation de la voiture qui est de 4 ans. Si la FIA et la CO se rendent compte qu'il y a un des constructeurs ou plusieurs constructeurs qui ont un déficit de performance, on les autorise à faire évoluer leur voiture. Maintenant, la FIA et la CO ont constaté qu'il y avait trois constructeurs qui avaient un déficit de performance, ce qui n'est pas forcément l'avis du quatrième, forcément, comme tu peux l'imaginer. Mmh. Et est-ce que c'est prématuré? Est-ce qu'il fallait donner le joker? En regardant les chronos, ça me semble peut-être un peu prématuré. Bon, même s'il y a quand même une des quatre voitures qui est quand même un petit peu distancée, mais cette voiture-là ne roule pas en Europe. Il y en avait une qui roulait aux États-Unis. Donc, je pense que dans les prochains jours, je pense qu'on devrait encore en entendre parler, puisque ça fait un petit peu gronder justement chez les équipes qui ont acheté des Oreca, et du coup, on pénalise un petit peu celui qui a bien travaillé.
Ok. Et puis dernière question, ça concerne ce qu'on a appris finalement ces derniers jours, un peu en lisant entre les lignes. Peugeot donc ne revient pas en endurance. On se posait la question. Bon, est-ce que toi, honnêtement, tu y croyais, ou est-ce que tu y as même jamais cru?
Si. Franchement, c'est pas un secret que Peugeot a participé à toutes les réunions avec la FIA et la CO, que Peugeot était prêt à revenir. Mais pour que Peugeot revienne, il fallait d'une que ça coûte moins cher, et de deux avoir des garanties sur la longévité de la catégorie, savoir combien de temps les voitures allaient être homologuées, et puis avoir un vrai règlement technique. Et du coup, Peugeot n'a pas eu toutes les réponses à ces questions, et peut-être pas en dernière minute, mais du coup, Peugeot a opté pour le rallycross, à la place de l'endurance. Donc c'est un petit peu dommage, du coup, mais bon. Donc il va falloir que la CO et la FIA repoufinent le règlement pour attirer des constructeurs en 2020-2021, quand le nouveau règlement va entrer en vigueur.
Eh oui, c'est bien ce qu'il nous semble. Merci Laurent d'avoir été avec nous en direct aujourd'hui pour débriefer sur cette septième manche de la saison du championnat du monde d'endurance. Donc je renvoie à ton site endurance-info.com pour tout savoir sur le monde de l'endurance. Merci Laurent, à bientôt.
Merci à toi, merci à bientôt. Allez, au revoir.
Voilà,
au revoir.
Laurent, merci, en direct avec nous. Et on enchaîne avec un pilote qui est avec nous aussi en direct, c'est Tristan Vautier. Salut Tristan.
Salut Laurent, Frédéric.
Bon, je t'ai un peu fait patienter, mais t'as vu, c'était intéressant quand même, hein, d'avoir cet éclairage sur la situation actuelle de l'endurance. Et d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses, mais je te poserai la question dans quelques instants. On va juste refaire un petit peu connaissance avec toi. T'as 28 ans, Tristan, et depuis quelques années, on te suit attentivement parce que tu tentes de percer aux États-Unis. Et tu penses bien que je pense que tu dois percer aux États-Unis parce que tu en as toutes les qualités. T'as fait deux saisons complètes en IndyCar. Et cette année, tu as refait une course car tu as remplacé Sébastien Bourdais, hein, qui s'était blessé à Indianapolis. Sébastien qui depuis va beaucoup mieux, qui a repris son volant. Mais tu as remplacé Sébastien dans la course du Texas en IndyCar. Alors dis-nous franchement, Tristan, où en es-tu toi par rapport à ta position aux États-Unis? Est-ce que tu vas pouvoir faire plus de courses à l'avenir? Rassure-nous éventuellement même.
L'IndyCar, pour être honnête, c'est pas gagné. Le fait de refaire cette course et puis d'avoir des super performances au Texas en juin m'a aidé, je dirais, à me remettre vers le haut des listes. Après, il y a peu d'opportunités pour des volants à temps plein pour des pilotes qui n'apportent pas de budget pour rouler. Voilà, c'est la situation actuelle en IndyCar. Donc, je dirais que ça m'a remis en très bonne position qu'à des situations un peu comme celle qui s'est présentée avec Sébastien, où les teams ont besoin d'un pilote à la dernière minute pour remplacer quelqu'un, et les teams cherchent à savoir que le pilote qu'ils vont prendre a déjà roulé et va tout de suite être dans le coup. Le fait d'avoir fait cette course et de tout de suite me remettre dedans, ça m'a permis d'être désormais dans une bonne position si la situation se représente. Pour un volant à temps plein, j'ai quelques discussions, pour être honnête, pas d'ouverture ou pas de pas de choses concrètes pour le moment.
Bon,
mais j'abandonne pas.
Oui, voilà. Tu es toujours là sur le marché, un bon joker, en espérant être un petit peu mieux, avoir un petit peu mieux. Mais on te connaît, on va dire c'est ça. Ça, il faut positiver à ce niveau-là. Tout le monde connaît ta valeur, tout le monde sait que tu peux à tout moment sauter dans un baquet d'Indycar. Hein.
Exactement. Et puis maintenant, j'ai une présence quand même assez importante en endurance, à la fois aux États-Unis et en Europe. Donc, ça me permet de rester très très actuel pour les équipes. On a eu une bonne saison avec des bons résultats. Donc, c'est sûr que ça me met dans une bonne position. Comme je disais, l'IndyCar, c'est pas évident pour le moment, mais il y a rien. Il y a toujours des opportunités qui peuvent se présenter. Et je suis pas pessimiste.
Bon, bah écoute, tant mieux. Ça nous fait plaisir d'entendre ça. On rappelle que tu as fait deux fois les 500 miles d'Indianapolis, donc t'es pas n'importe qui, non, quand même. Hein, ça, il faut quand même le préciser. Alors l'endurance, parle-nous-en parce que moi, il y a pas si longtemps, tu as gagné une course en Europe prestigieuse, les 3 heures de Barcelone, dans le cadre de la finale du Blancpain GT Series Endurance Cup. J'imagine que ça t'a fait bien plaisir.
Oui, c'était super. À savoir que le Blancpain aujourd'hui. Ça s'appelle Blancpain parce que c'est sponsorisé par Blancpain, mais c'est vraiment, on peut l'appeler le championnat d'Europe, voire du monde de GT.
Ouais.
Il y a 60 voitures tous les week-ends en piste avec un plateau en qualification qui est couvert par, je dirais que les 30 premiers en général sont couverts dans la même seconde. Donc chaque centième, dixième de seconde est très important, c'est très compétitif, il y a tous les constructeurs qui sont engagés. Donc gagner une course dans ce championnat, ça a toujours... une signification très importante. Donc c'était génial pour nous. On était très rapide tous les week-ends cette année, mais on a toujours eu quelques petits problèmes. On n'a pas réussi à tout mettre en place et réussir à tout mettre en place sur la dernière course de l'année, c'est toujours assez spécial parce que ça nous met en bonne position pour l'hiver. Et en plus, on avait gagné sur la même piste l'an dernier en Blancpain Sprint.
Donc voilà, il y a deux divisions, il y a le sprint et l'endurance. Ouais, voilà. Donc en Blancpain, tu es un pilote, on va dire, précieux hein, pour tout le monde, et tout le monde sait bien quelle est ta valeur là aussi. Mais est-ce que tu viserais pas de l'endurance au niveau du championnat du monde, carrément?
Ah, c'est sûr que le WEC, c'est très intéressant, même... Le championnat auquel je participe, le WeatherTech IMSA Championship aux États-Unis, se développe beaucoup. Je roule actuellement en GT sur Mercedes aussi là-bas, donc c'est un gros championnat. Il y a 12 courses chaque année et il y a une catégorie prototype qui se développe beaucoup avec l'implication de plus en plus de constructeurs qui préfèrent investir là-bas qu'en LMP1, sachant que les budgets sont moins élevés. Il y a Acura, Honda là qui sont impliqués avec le team Penske.
Bah,
désormais Mazda. Donc il y a beaucoup de constructeurs, donc le prototype déjà dans ce championnat là-bas serait un bon step up pour moi depuis la catégorie GT. Mais c'est sûr qu'après le WEC, le LMP1 endurance, c'est le rêve de tout pilote.
Tu as vu la news comme quoi Fernando Alonso pourrait participer aux 24 heures de Daytona, qui est sans doute la course la plus célèbre de ce championnat IMSA dont tu nous parles. Tu as entendu parler de ça?
J'en ai entendu parler. Après, rumeur, où est-ce que ça va se faire, on verra, mais ce serait super. Je pense qu'il y a de plus en plus de pilotes qui s'intéressent au WeatherTech Championship aux États-Unis, parce que justement, grâce à l'implication de tous ces constructeurs, on avait parlé de Button chez Penske Honda, ça s'est pas fait, mais je pense qu'il y a de plus en plus de pilotes de renom qui s'y intéressent parce que le championnat se développe. Et c'est un des rares championnats aujourd'hui qui est sur une pente très ascendante.
Ouais, tout à fait. Tu es basé plutôt aux États-Unis ou plutôt en Europe maintenant, sans indiscrétion?
Alors cette année, beaucoup d'allers-retours. Hein. J'ai fait 20 courses entre l'Europe et les États-Unis, hein, entre le Blancpain et l'IMSA, et puis la course que j'ai faite en IndyCar. Donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Je suis principalement basé aux États-Unis, mais j'ai passé presque autant de temps en Europe cette année, beaucoup de temps dans les avions. Voilà,
c'est
un bon problème à avoir
quand
on a un programme comme ça.
Bon, bah écoute Tristan, on est ravis de t'avoir parlé aujourd'hui. C'était vraiment pour prendre de tes nouvelles, hein, bien évidemment, te donner un petit peu la parole et puis espérer que tu continues sur ta lancée et que pourquoi pas, ça se redébloque un petit peu côté américain, voire IndyCar. On serait vraiment très content pour toi. Mais en tout cas, tu le mérites. Voilà.
Eh ben merci, c'est très sympa. Ça fait plaisir de vous parler. Ça faisait un petit moment.
Voilà. Mais on te suit très très attentivement, Tristan. Allez, je te remercie.
Eh ben, merci.
Passe bonne fin d'automne et puis bon, on reprendra tes nouvelles, bien sûr. Salut Tristan.
Ça marche, merci, salut.
Voilà, Tristan Vautier qui était avec nous en direct. Et on va aborder, dans quelques instants maintenant, la dernière page aujourd'hui dans Motors consacrée. Alors, d'abord à quelques petites nouvelles aussi du monde des sports mécaniques avec notamment Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, on va vous en reparler. Mais on va commencer par le MotoGP, bien sûr, à tout de suite.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC jusqu'à 14h Motors. Laurent-Frédéric Bollet.
13h45, la dernière ligne droite donc, spéciale moto pour commencer. Benoît Boutron me rejoint de nouveau. Re-salut Benoît.
Re-salut à tous.
Bon alors déjà que tu nous as tous douchés tout à l'heure en nous disant que Zarco n'avait pas
c'est
gagné.
C'est le cas de le dire.
Bon, je pense que nos auditeurs s'en doutaient parce que je pense qu'on en aurait un peu plus parlé depuis toutes les éditions ce matin. Mais donc, ben voilà, il était en pôle notre ami Johan Zarco. Ouais. Et il faut que tu me racontes comment ça s'est passé. Comment alors il n'a pas pu gagner finalement.
Malheureusement, ça s'est pas très bien passé effectivement pour Johan Zarco qui termine finalement 8e de cette course. Il est parti en pole, tu le disais, sa 2e pole cette saison, c'est quand même une performance pour Johan Zarco, mais on a eu un grand prix complètement fou. L'image marquante pour Zarco, c'est quand même un accrochage en plein milieu de la course avec Jorge Lorenzo qui très vite a gagné beaucoup de place et s'est retrouvé presque en tête de la course et du coup accrochage entre les deux à la sortie d'un virage. Bon, on peut pas dire qu'il y ait vraiment de fautif sur ce coup, même si Lorenzo s'est plaint après la course de l'attitude de Zarco. A priori, pas de conséquences pour le Français, mais un Grand Prix d'exception, notamment pour un dernier tour complètement incroyable sous la pluie à Suzuka, puisque les deux premiers...
À Motegi, si je puis me permettre.
À Motegi, exactement.
Mais c'est vrai qu'il y a des courses partout au Japon, mais là, c'était Motegi, tout à fait. Alors, ça s'est joué entre Marquez
exactement.
Et Dovizioso.
Marquez et Dovizioso, ils sont au coude à coude dans le dernier tour, et finalement, Dovizioso, sur sa Ducati, parvient à faire la différence sur Marquez, qui, lui, tentera encore une fois dans le dernier virage d'attaquer pour aller chercher cette victoire, mais finalement c'est Dovizioso qui l'emporte et si on prend pas parti, on peut se réjouir de cette victoire puisque ça se resserre au niveau du classement. Il y a plus que 11 points d'écart entre l'Italien et l'Espagnol et on s'attend à une fin de saison complètement dingue en MotoGP.
Donc ça fait 5 victoires chacun parce que Dovizioso, certes, il est peut-être moins connu que Marquez, Rossi, Lorenzo, mais enfin bon, cette année, il est en train de vraiment faire
cette stat qui est assez marrante sur les 10 derniers grands prix de MotoGP, 5 victoires de Dovizioso, 4 victoires de Marquez et une victoire de Rossi. Autant dire que les deux se partagent vraiment toutes les victoires depuis plusieurs mois désormais.
Oui, c'est ça.
Depuis le 4 juin, en fait, c'est soit Dovizioso, soit Marquez, même si Rossi a réussi à s'imposer à Assen aux Pays-Bas.
Alors, Zarco 8e, donc tu nous l'as dit, finalement. Mais Rossi, bah tiens, parle-nous-en, parce que
Rossi,
là aussi,
abandon de Rossi, et c'est ça la déception un petit peu pour ses fans. Effectivement, Valentino Rossi, dès le début du Grand Prix, il a dû abandonner. C'est quand même une contre-performance pour lui, puisqu'il revenait, on rappelle, après sa fracture.
Alors ça, on en a parlé,
on en a parlé, Il avait réussi à faire podium sur le Grand Prix précédent, ça a été plus compliqué ce matin. On peut noter tout de même, côté français, la belle performance de Loris Baz. Puisque Zarco termine 8e, Baz finit 10e.
Ah bah oui, donc,
Loris Baz, dès qu'il pleut, il est extraordinaire. Et il arrive à faire des performances. On rappelle la mauvaise nouvelle pour lui, il ne sera pas reconduit en MotoGP l'an prochain. Mais c'est quand même une belle performance à signaler, cette 10e place donc pour l'autre pilote français.
Oui, bah là tu remues le couteau dans la plaie, mon cher Benoît. Hein, parce que effectivement, on avait suffisamment un petit peu... on s'était ému un petit peu, voilà, de ce remplacement annoncé de Loris Baz.
On l'avait eu, souviens-toi, dans Motors d'ailleurs. Il nous avait dit on est en négociation et puis finalement.
C'est vrai qu'à y repenser, on pouvait soupçonner à son ton que c'était pas gagné. Et donc on a eu confirmation. Alors il reviendra. Ou reviendrait, mais bon, je pense qu'on pourrait employer le futur, non pas le conditionnel, en championnat du monde Superbike l'année prochaine. Bon, bah écoute, c'est quand même pas rien non plus. C'est un très bon championnat.
Guidon,
bon, voilà. Donc, Dovizioso Marquez, 11 points seulement d'écart entre les deux. Enfin, l'avantage de Marquez à 3 Grands Prix de la fin. Ouais, ça promet cette fin de saison.
Ça va jouer entre les deux, on va pas se mentir. Hein. Effectivement, il reste 3 Grands Prix puisque le 3e, Maverick Vinales, est distancé 41 points d'écart entre Vinales et Marquez, le leader. Donc, on aura un vrai duel Marquez-Dovizioso pour le titre de champion du monde cette année.
Bon, c'est notre côté MotoGP. Alors, il y a eu deux autres courses, forcément, comme d'habitude, le Moto 2 et le Moto 3. Oui. Alors, à chaque fois, ça a été donc sous la pluie, il n'y a pas eu de miracle.
Et ça t'a plu, les deux ont été raccourcis, toi qui détestes ça.
On en a parlé en début d'émission. Moi, le Japon, je veux dire, bon, il se trouve que je connais pas mal ce pays. Il pleut en octobre. Voilà. C'est la saison des typhons. On a beau y revenir, c'est connu.
C'est ça.
C'est quand même incroyable.
On le sait. Du coup, toutes les courses ont été perturbées. Effectivement, on a été ramené cette course notamment de Moto 2 à 15 tours seulement, ça fait une très petite course finalement pour ce Moto 2 avec la victoire d'Alex Marquez, le petit frère de Marc. Eh bien Alex Marquez,
on reste en famille.
Voilà, a gagné devant un autre espagnol, Xavier Vierge, qu'on connaît très peu finalement, mais qui fait une belle perf, et devant le malaisien Hafiz Syahrin. Donc victoire de Marquez, 19e place pour Fabio Quartararo qui décidément vit une saison plus que compliquée. Mais Marquez donc s'impose sur ce circuit.
Et au championnat, bon, Morbidelli a repris des points à Lutti. Hein,
il a quasiment une victoire d'avance. Ah, il a 24 points d'avance, Franco Morbidelli, sur Thomas Lutti, le Suisse, qu'on avait suivi évidemment l'an passé avec Johan Zarco à la lutte dans cette catégorie Moto2. Alex Marquez est troisième, mais il est largement distancé. 52 points de retard sur le deuxième. Donc c'est terminé pour le titre de champion du monde. Mais en tout cas, Marquez a remporté une belle victoire ce matin. Là aussi, le titre va jouer entre Morbidelli et Lutti, mais il y a un vrai avantage pour le pilote italien.
Alors, en Moto 3, Joan Mir arrivé à Motegi avec 80 points d'avance sur Romano Fenati. C'est la discipline où il y avait le plus d'écart.
Exactement. Hein. Il pouvait quasiment tout boucler dès ce week-end. Eh bien, écoute, l'avantage est passé de 80 à 55 points puisque il n'a pas terminé le Grand Prix. Et c'est Romano Fenati qui s'est imposé. D'ailleurs, petite stat, dans toute sa carrière de Moto 3, il a remporté 10 succès. C'est le pilote le plus titré dans cette catégorie. Il a remporté le plus de Grand Prix. On a eu un triplé italien d'ailleurs dans cette plus petite catégorie puisque Fenati a devancé Nicolo Antonelli et Marco Bezzecchi. Donc là aussi, un autre Français qui n'a pas brillé malheureusement, c'est Jules Danilo, il termine 18e. Une course Moto 3 là aussi raccourcie, 13 tours, c'est encore pire.
Qui dit mieux?
13 tours, c'est terrible. Ça a duré un peu plus d'une vingtaine de minutes et voilà, donc victoire de Fenati.
Encore un week-end un peu gâché par les
On peut juste dire un mot sur le Moto 3, c'est que on aura peut-être un pilote sacré le week-end prochain, puisqu'il y aura un nouveau Grand Prix, ça sera en Australie, il me semble.
Oui, ils en font trois de suite.
Et s'il s'impose, eh bien, Joan Mir sera officiellement sacré champion du monde de Moto 3.
RMC Motors.
World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Et voilà, c'est notre nouvelle rubrique, donc Radio Paddock. Évidemment, je te donne un petit peu les infos de la semaine et toi, tu réagis à tout ce qui s'est passé
avec joie
dans le monde des sports automobiles. Et on va démarrer avec Sébastien Loeb. On en parle toutes les semaines de Sébastien Loeb. On l'attendait au rallye du Maroc. Ça te fait rire, je vois ça déjà.
Oui.
Le nonuple champion du monde des rallyes. Et bien finalement, il termine deuxième de ce rallye du Maroc à 8 minutes du vainqueur qatari Nasser Al-Attiyah. On a envie de dire, c'est toujours le même scénario lorsqu'il dispute un grand rallye raid. Il est en tête au début, et puis ensuite, souci mécanique ou problème d'orientation, et il se fait distancer à un écart rédhibitoire, et il termine deuxième de la course derrière Al-Attiyah.
Ben oui, c'est ça. Alors, j'aime bien ce débat qu'on a instauré depuis l'été, pratiquement. C'est un vrai feuilleton, avec tous nos auditeurs dans Motors, parce que c'est un débat qui a trois facettes, en fait. T'as la situation de Sébastien Loeb, qui est un de nos plus grands champions de l'histoire, bien évidemment. Mais, en conséquence, il y a aussi un débat qui suit instantanément, c'est un débat concernant Sébastien Ogier et le WRC et Citroën en championnat du monde des rallyes.
Ouais.
Alors on en était resté à l'épisode où Sébastien Loeb avait fait des essais pour Citroën en WRC avant le rallye d'Espagne.
C'est vrai.
Ensuite il est donc parti au Maroc et c'est vrai qu'on a le sentiment que Sébastien Loeb, il veut boucler la boucle en rallye raid, il veut gagner le Dakar, c'est ça l'objectif principal pour Peugeot.
Dès cette année évidemment.
Enfin en 2018,
voilà,
dans
2018,
deux mois et demi.
Voilà,
c'est ça. Mais ça passe par évidemment des répétitions et en l'occurrence ce rallye du Maroc était la répétition, la dernière grande répétition pour l'équipe Peugeot avant le Dakar. Or bah ça s'est pas bien passé puisque Carlos Sainz déjà sur l'autre Peugeot 3008 DKR a eu des problèmes, il termine que dixième.
Les deux Peugeot ont eu beaucoup de soucis sur ce rallye du Maroc.
Et Sébastien Loeb ne gagne pas face à Nasser Al-Attiyah, qui est évidemment un grand spécialiste
pilote
de rallye.
Pilote expérimenté, évidemment, notamment sur le Dakar.
Mais l'info, c'est plus que Loeb n'a pas gagné, plutôt que Al-Attiyah ait gagné.
C'est
il faut bien en avoir conscience. Donc, c'est pas génial comme nouvelle. Ça veut pas dire que Loeb ne pourrait pas gagner le Dakar, mais on sait que Sébastien Loeb s'interroge sur son avenir, et on a cru comprendre que peut-être le Dakar ce serait la dernière fois aussi pour Peugeot. Donc sous-entendu, si là, Loeb ne gagne pas, il n'y arrivera peut-être jamais.
Et tu en parlais, le rapport entre Loeb et le monde du WRC, eh bien, on en reparle, c'est tout frais, puisque le Yves Maton, le directeur de Citroën Racing, a indiqué il y a quelques jours qu'il souhaitait que Sébastien Loeb participe à certaines épreuves du WRC chez Citroën la saison prochaine. Et d'ailleurs, dès le rallye de Monte-Carlo au mois de janvier, c'est-à-dire, imagine le mois de janvier de Sébastien Loeb, il fait le Dakar donc avec Peugeot, et direct après, il file à Monte-Carlo.
Ah, c'est pratiquement, mais à leur prêt, parce qu'il y a les reconnaissances et tout, ça serait vraiment plus que limite au niveau de l'emploi du temps.
Ça va être terrible pour lui, et effectivement, c'est une très bonne indication pour la suite de Citroën en WRC, puisqu'on pouvait se dire Citroën va tout faire pour aller chercher Sébastien Ogier. Ogier qui devrait décrocher un cinquième titre mondial. C'est parfait. Tu vas chercher l'homme qui domine sa discipline.
Tout à fait. Oui.
Tu ramènes chez Citroën pour faire un ticket français.
Tout à fait.
Eh bien non. On semble faire confiance à Sébastien Loeb. Et d'ailleurs, Yves Maton a indiqué effectivement, on aimerait que l'Hub soit là pour Monte-Carlo, mais également pour d'autres épreuves. Donc,
oui.
Il intègre vraiment l'Hub dans cette saison de WRC. Et évidemment, un pilote comme Ogier ne devrait pas accepter cette situation si les discussions se poursuivaient. Ben,
je vois pas comment c'est gérable. Hein, on l'a déjà dit. Sébastien Ogier arrivant en tant que patron de l'équipe et qui voit effectivement une légende à ses côtés. Ben, forcément, cette légende soit lui fait de l'ombre, soit vient le concurrencer. Ouais. Et on va pas demander non plus à Sébastien Loeb de se coucher pour laisser gagner Sébastien Ogier. Ça sera. Donc, c'est inquiétant. Ça veut pas
c'est
dire
quand même
Sébastien...
bizarre que Citroën ne fasse pas tout pour faire venir Ogier.
Bah voilà.
Que tu en
penses, ça fait un an qu'on dénonce un petit peu ça en se disant qu'il y a tout pour faire une grande équipe française avec un programme ambitieux.
Et c'est pas un bon message qu'il lui a envoyé en tout cas de la part de Citroën.
Voilà. Alors on sait que Sébastien Ogier, maintenant on a appris la semaine dernière au rallye de Catalogne, que Sébastien Ogier il continue de parler avec son employeur actuel, l'équipe privée anglaise M Sport, mais avec une implication de Ford qui pourrait devenir peut-être un peu plus importante.
Oui.
Citroën, bon, ils discutent, ça on le sait, mais il y a cette équation Loeb qui est pas clair, et il y a Hyundai, maintenant on le sait, il y a discussion aussi avec la marque coréenne Hyundai, et ben Hyundai, ça se trouve c'est eux qui vont empocher le morceau, qui vont faire venir Sébastien Ogier, et là, eux, ils n'auront pas d'état d'âme, et ils auront eu raison, bien évidemment.
Ouais, et pour
donc,
faire
vois, c'est une sorte de jeu de billard à trois bandes, mais tout est lié entre Loeb, Ogier et Citroën.
Et ça va se déterminer dans les semaines qui viennent. La saison WRC n'est pas terminée, il reste deux rallyes, on rappelle, mais 37 points d'avance pour Ogier sur Ott Tänak, autant dire que il pourrait décrocher 27 points.
Et 28 sur Thierry Neuville.
Il pourrait pas décrocher le titre en tout cas dès le prochain rallye, donc
au rallye de Grande-Bretagne le prochain avant d'aller en Australie où ce sera la finale et où là il voudrait évidemment éviter Sébastien Ogier que ce soit une sorte de loterie peut-être pour le dernier rallye. Bon bah écoute voilà Benoît, oui, je profite aussi de ta présence pour relancer un peu ce débat Ogier, mais nous qu'est-ce qu'on veut? On veut Ogier chez Citroën,
mais bien sûr.
Et puis on veut peut-être Loeb aussi, mais on préfère Ogier quand même qui est en pleine activité.
On préfère le voir chez Citroën que chez Hyundai.
Bon bah écoute, merci d'être venu. En tout cas, c'était bien pour les résultats MotoGP, c'était important. Et puis dans quelques instants, bien évidemment, Motor s'arrête là. Mais dans quelques instants, c'est l'Intégral Sport avec Arnaud Souk. Merci à vous, à bientôt.
RMC Motors avec Motorsport TV.